Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec l'épisode numéro 4 de notre lecture du jour, nous ouvrons le livre « Jamais de trop, accueillir un enfant trisomique », préface de Guy Gilbert, livre écrit par Denise Raymond. Le chapitre 4 de la deuxième partie du livre nous parle de la scolarisation de Jérémy. Je lis donc ce thème de l'école. Chapitre 4, l'école. Intégration scolaire. Ce fut un peu le parcours du combattant. Il faut avant tout faire une demande de scolarisation auprès de la commission de circonscription de l'éducation spéciale, CCES. La présidente ayant répondu favorablement, il s'agissait ensuite de trouver une école. La première démarche s'avéra négative pour cause de sureffectif. Pourtant, à la rentrée scolaire, cette même école recherchait des enfants pour compléter ses classes. La seconde école ne répondit pas ouvertement non, mais ne proposait de prendre Jérémy qu'à mi-temps et de compléter avec un centre spécialisé. Malgré deux entretiens, le directeur ne jugea pas utile de donner suite à ma requête. Heureusement, le troisième établissement fut le bon. La seule condition d'admission portait sur la propreté de l'enfant. On s'inquiéta également de savoir s'il était caractériel. Mais dans les deux cas, il n'y avait aucun problème. L'accueil fut bon. Jérémy a ainsi pu effectuer 5 ans d'école maternelle. Mais arrêtons-nous un instant sur le fonctionnement de la scolarisation soi-disant adaptée à un enfant trisomique. À la suite de l'accord de la présidente de la CCES, après qu'une commission ait statué sur le dossier de Jérémy, j'ai été informée que mon enfant serait placé à partir de la rentrée scolaire suivante, un essai de scolarisation en maternelle à raison de 2 demi-journées par semaine. À l'issue de cette période d'essai, une réunion à laquelle je serai conviée aurait lieu afin d'établir le projet d'intégration. Cette mise à l'essai devait durer un trimestre. Mais en fait, Jérémy fut accepté tous les matins à partir du mois suivant son entrée en maternelle, suite notamment à sa bonne conduite. Les réunions de synthèse. J'avoue qu'au début, ces réunions m'étaient pénibles, tant psychologiquement que nerveusement. Je n'étais ni habituée ni préparée à entendre parler de mon enfant dans des termes tenant plus du reproche que du compliment. Ça n'est pas fait pour remonter le moral. Même si je savais de quoi était capable mon fils, certains propos étaient durs à entendre. Malgré tout, il était nécessaire d'évaluer le travail de Jérémy et ses synthèses d'intégration. Et puis, je ne voulais pas manquer ces réunions, même si c'était difficile pour moi. J'étais en effet trop heureuse que l'on autorise les parents à y assister. Finalement, je me suis rapidement adaptée, d'autant plus que je pouvais intervenir. Jérémy, soutenu notamment par la conseillère d'orientation, a pu suivre une scolarité correcte et continue. Cela parce que l'on a mis l'accent sur le fait que, pour progresser et éventuellement intégrer un CP normal ou une autre classe, il devait suivre impérativement une scolarité normale. Depuis que Jérémy est en CLIS, C-L-I-S, les réunions de synthèse se passent mieux. Il a grandi et fournit désormais un véritable travail scolaire. Je sais que l'on recherche avant tout l'intérêt de l'enfant. Même s'il n'est pas appelé à poursuivre de hautes études, il est pris au sérieux et tout est mis en œuvre pour qu'il progresse sans trop de difficultés. Une fois par trimestre sont réunis, à propos du projet d'intégration, un des deux parents, l'orthophoniste, le kinésithérapeute, l'enseignant, le psychologue scolaire. À chaque réunion, un psychologue différent rend tout suivi impossible. Le directeur de l'établissement scolaire, la conseillère d'orientation et parfois le médecin scolaire. Le projet d'intégration a pour but d'établir les jours où l'enfant doit aller en classe, suivre des séances d'orthophonie et de kinésithérapie, ou encore, pour certains, passer des demi-journées en centre spécialisé ou dans d'autres institutions. Une fois cela établi, il faut impérativement s'y tenir. Au cours de la réunion, le travail scolaire de Jérémy est également évoqué, ainsi que son comportement vis-à-vis de ses camarades. Il faut aussi évaluer ses capacités afin d'établir de nouveaux objectifs dans le but d'une progression positive. À savoir que tous les enfants handicapés n'évoluent pas de la même façon selon leur handicap. Il ne sert à rien de vouloir qu'il fasse telle ou telle chose s'il n'en est pas capable. Il est inutile de faire du forcing qui inévitablement va le mener droit à l'échec. De plus, il est déjà difficile de faire intégrer un enfant handicapé à l'école, mais le mettre en position d'échec est une souffrance, que ce soit pour lui ou pour l'instituteur, qui est souvent démuni face à ce genre de situation. Jérémy a trouvé sa place au sein de cette école maternelle. Il a été accepté par le personnel et par les enfants, à quelques exceptions près. Il a fait une première année, puis deux fois la même section. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Néanmoins, j'ai dû insister pour obtenir un temps de scolarité supplémentaire. En effet, Jérémy a du mal à comprendre pourquoi son frère et sa sœur vont à l'école toute la journée, tandis que lui n'y va que le matin, l'après-midi étant consacré aux rééducations diverses. D'ailleurs, au cours des réunions, tant que le sujet de la scolarité n'était pas abordé, tout allait bien. Jérémy était couvert de louanges, gentil, sociable, pacifique, bonne intégration. Mais lorsque je demandais quelques heures supplémentaires de scolarisation, tout le monde faisait la sourde oreille. Petit à petit, j'ai tout de même pu obtenir une scolarisation un peu plus soutenue, mais ce ne fut pas sans mal. Par la suite, Jérémy a bénéficié de 3 heures supplémentaires de cours grâce à la conseillère d'orientation. Cela impliquait qu'il aille à l'école le samedi matin. Malheureusement, dans les faits, il n'en était rien. C'est au cours d'une réunion de synthèse que nous avons tiré les choses au clair. Il est apparu que la maîtresse considérait qu'elle en faisait déjà assez comme cela, sans en plus que Jérémy lui soit imposé le samedi. Pourtant, c'était bien ce qui était prévu dans le contrat d'intégration. En fin de compte, il n'a pu aller en classe le samedi matin de façon continue uniquement au dernier trimestre. Les heures supplémentaires m'étaient refusées parce que Jérémy demandait plus d'attention qu'un autre enfant. Pourtant, l'institutrice avoua qu'elle ne passait en tout et pour tout que 10 minutes avec Jérémy dans une journée. Ainsi, tout le monde parle d'intégration, mais aucun effort n'est fait dans ce sens. Certes, il faut reconnaître que les enseignants ne possèdent souvent aucune formation quant aux méthodes applicables à l'intégration d'enfants trisomiques en milieu scolaire. Il existe bien des enseignants spécialisés, mais ils sont malheureusement peu nombreux et certaines structures scolaires ne permettent pas leur maintien. Combien de fois ai-je entendu dire « C'est la première fois que j'ai un enfant trisomique dans ma classe ?» J'avoue qu'excédé, il m'est arrivé de répondre que pour moi aussi, c'était la première fois. Parmi les divers psychologues ayant assisté aux réunions, l'une d'eux se renseignait dans des documents pendant la réunion sur ce qu'était la trisomie. Comment faire confiance à une telle équipe censée vous conseiller, alors que certains ne maîtrisent manifestement pas le sujet? Ainsi, d'un côté, on veut bien prendre l'enfant en charge, mais de l'autre, on vous fait sentir que c'est une faveur qui vous est faite. Le manque d'information se fait aussi cruellement sentir et nuit à la bonne scolarisation de l'enfant. Certains enseignants seraient prêts à suivre une formation complémentaire, mais l'éducation nationale a, semble-t-il, d'autres soucis en tête. Il est aussi paradoxal de constater que, lors des réunions, l'accent était toujours mis sur le fait que Jérémy devrait aller à l'école au maximum dans le but d'une bonne intégration. Malgré tout, sa scolarité s'est bien déroulée compte tenu du fait qu'il s'agissait plus de garderie que d'un réel travail scolaire. Restait à savoir ce qu'il allait advenir de Jérémy après la maternelle. Étant donné son niveau, il était exclu qu'il entre au CP ou même en classe de perfectionnement, d'autant plus que dans cette dernière, les enfants étaient plus âgés que lui. Jérémy était en effet incapable de lire ou d'écrire. À peine savait-il ébaucher l'écriture de son prénom. Dans ces conditions, le centre pour handicapés semblait inévitable. Or, pour moi, il n'en était pas question. Jérémy ayant toujours évolué au milieu de personnes normales, le placer dans ce genre d'institution lui serait néfaste. En tant qu'individu, cela affecterait sa progression mentale et physique. Il était impensable qu'il perde tous ses acquis obtenu au prix de nombreux efforts. C'était en totale contradiction avec le but fixé. Heureusement, une opportunité se présenta, mettant fin au débat. Une classe d'intégration scolaire, CLIS, devait se créer dans une école primaire de la ville voisine. Rapidement, le nécessaire fut fait, afin de mettre de notre côté toutes les chances d'admission de Jérémy. Le passage en maternelle lui aura été bénéfique, notamment au niveau de la scolarité. Évaluer ses acquis du point de vue scolaire reste cependant délicat. Néanmoins, les bases sont posées en vue de progrès futurs grâce à la rééducation orthophonique, au soutien à la maison, et une bonne dose de patience. Malgré les difficultés, cette expérience s'est révélée enrichissante pour Jérémy comme pour moi. Dans l'ensemble, il y a eu plus de positifs que de négatifs. Et puis, je ne peux pas oublier que c'est la seule école à avoir accepté mon fils. Une ATSEM en particulier, dotée d'une grande sensibilité et gentillesse, a toujours eu beaucoup d'affection pour Jérémy. Sentiment qui perdure. CLIS. Le 2 septembre 1993, Jérémy, ravi, son cartable à la main, fit son entrée dans la cour des grands. C'était le plus heureux des petits écoliers. Il avait attendu ce jour-là avec beaucoup d'impatience, car cela impliquait qu'il en avait fini avec l'école maternelle. D'ailleurs, le dernier trimestre en maternelle s'était avéré difficile. En effet, il ne supportait plus d'être avec des petits. Il sentait bien que ce n'était plus sa place. Un instituteur spécialisé avait la charge de 7 enfants. Aller à l'école de 8h à 17h, manger à la cantine et ce tous les jours, constitua un grand changement. Jérémie en fut métamorphosé. Évolution. Jérémie a vraiment fait un bond en avant. Sa trisomie passant au second plan désormais, il nous faisait la conversation de manière intelligible. Coupait lui-même ses aliments, ne semblait plus lui poser de problème alors que, jusqu'à présent, nous nous étions évertués à lui apprendre sans grand succès. Il décida également de prendre sa propre bicyclette et non plus celle de sa sœur, plus petite et encore munie de roulettes. Il se montrait plus calme, obéissant et plus attentif que de coutume. Bref, l'effet « grande école » semblait avoir eu sur lui un impact bénéfique. Restait à espérer que cela continue. D'ailleurs, Jérémie avait tellement apprécié le changement qu'il ne se lassait pas de répéter à Rachel « Toi, tu vas encore à la maternelle avec les bébés !» Comme quoi, la différence était bien comprise et assimilée. Certes, nous n'allions pas crier victoire après 2 jours d'école, car la vie nous a appris à modérer nos élans. Rien n'est jamais acquis, mais malgré tout, cela faisait plaisir. En peu de temps, Jérémie avait progressé mentalement d'une bonne année. Il est vrai que, par rapport à toute une vie, cela peut paraître une goutte d'eau. Mais pour Jérémie, c'était fabuleux. Il nous stimulait. Il nous a prouvé qu'il pouvait aller de l'avant. Nous devons lui faire confiance. Ayant eu dans cette classe l'opportunité de s'exprimer avec ses camarades, il s'était dévoilé sous un autre jour. Mais peut-être savait-il déjà toutes ces choses et attendait-il simplement un déclic? Tous ces progrès étaient-ils éphémères? À toutes ces questions, nous n'avons à poser que notre confiance en lui. Il était et reste capable de nous étonner encore et toujours, nous en étions sûrs. Suivre les règles. Comme partout où il va pour la première fois, Jérémie a commencé par visiter l'école. Il y avait tant de choses à voir, mais ensuite il a fallu redevenir sérieux. Il devait imiter ses camarades et se montrer sage, attentif, discipliné, ce qui lui a longtemps posé problème, et rester assis. Avec son instituteur, il a fallu tout reprendre à zéro. Lire, écrire, compter. C'est une longue et difficile progression dans laquelle Jérémie s'est investi et a fait preuve de bonne volonté. C'était désormais un grand garçon qui avait soif d'apprendre, de tout connaître. Il effectuait un programme de CP à un rythme très lent, mais cela se révéla efficace. Jusqu'à présent, il n'avait eu que des institutrices, et le changement s'était aussi produit à ce niveau. Il s'entendait bien avec son maître, je dirais même plus, il l'aimait. Le courant passé, la confiance était installée, et cela donnait de bons résultats. En maternelle, Jérémie avait enregistré des mots et commençait à parler. Mais encore aujourd'hui, et comme pour tout, il ne s'exprime que lorsqu'il est sûr de lui. Il préfère d'abord s'entraîner seul et ne se dévoiler en public que lorsqu'il se sent prêt. Ainsi, s'il ne dit rien ou s'il hésite, il ne faut pas immédiatement en conclure qu'il ne sait pas ou qu'il n'est pas capable. Nous, adultes, avons tendance à vouloir le faire aller trop vite, alors qu'il vaut mieux suivre son rythme à lui. Il parle de mieux en mieux. Ses efforts ont porté leurs fruits. Il a fait de gros progrès sur le plan de la prononciation et de l'articulation. Plus petit, l'orthophoniste effectuait avec lui un travail sur ses cordes vocales afin qu'il parle non pas d'une voix rauque, mais avec la petite voix. C'est un point important qui doit être pris au sérieux. Jérémie participait, comme ses camarades, aux différentes activités, sorties, manifestations sportives et autres. En classe, tout se passait bien, de même qu'à la cantine. Ils se tenaient bien à table, et ce, dans tous les sens du terme. À la récréation, mis à part quelques anicroches d'usage en début d'année, il était désormais bien intégré. Il était tout simplement heureux d'être à l'école. C'est là un bon point pour son autonomie future. Chapitre 5. Activité extrascolaire. La piscine. Jérémy a découvert les joies de l'eau en tant que bébé nageur à 1 an et demi. Il n'a jamais eu aucune appréhension et descend du toboggan dans la piscine pour y remonter immédiatement ou saute directement du bord du bassin. Plus tard, il se déplaçait dans l'eau avec une bouée. Mais il ne l'a pas gardé longtemps, car il préférait être libre de ses mouvements. Il s'est révélé à l'aise dans l'eau, avec ou sans accessoires. Il a appris à nager et s'amuse beaucoup. Il va à la piscine avec l'école et, à moins d'être malade, ne manquerait une séance pour rien au monde. Nous allons également à la piscine en famille, et c'est l'occasion pour Jérémy de nous montrer ses prouesses. Visite éclair au centre aéré. Pensant qu'il serait bon pour Jérémy d'avoir des camarades autres que dans le cadre scolaire, ainsi qu'une activité pendant les vacances, j'ai cru bien faire en l'inscrivant au centre aéré. Malheureusement, ce ne fut pas une réussite. Au début, Jérémy a fait quelques bêtises. Il a été sermonné par la monitrice et à la maison, nous lui avons gentiment expliqué ce qu'il ne fallait pas faire. Le message a été reçu, mais dès la semaine suivante, les ennuis ont recommencé. Cette fois, c'était les moniteurs qui refusaient de l'amener à la piscine sous prétexte qu'il demandait plus d'attention que les autres. Propos que je commence à avoir l'habitude d'entendre. On m'a même demandé de l'accompagner, si je désirais vraiment qu'il en profite comme tout le monde. Mais dans ce cas-là, il valait mieux le garder à la maison. Finalement, après explication avec le responsable, Jérémy a pu retourner à la piscine 2 fois par semaine dans un premier temps, puis tous les jours, comme ses camarades. Dans tous les centres de vacances, il existe des enfants turbulents et difficiles à mépriser. On ne les refuse pas pour autant. Mais le handicap de Jérémy provoque une peur. Alors qu'il est pourtant facilement maîtrisable, il suffit de savoir le prendre. Malheureusement, la majeure partie des gens ne veut même pas essayer de le connaître. Fuyant les responsabilités, en opposant un non catégorique, prétextant le handicap de l'enfant, il se donne bonne conscience. Malgré tout, cette expérience lui a permis de se dégourdir, notamment en se défendant contre quelques-uns sans scrupules qu'il avait pris pour souffre-douleur. Jérémy n'a jamais été mouchard, mais il me suffisait de le regarder pour comprendre si personne n'était déjà venu me relater les faits. Dans l'ensemble, il était content d'être avec d'autres enfants de tous âges. il a eu accès à des activités inhabituelles pour lui, comme le ping-pong, le football et d'autres jeux de plein air. Évidemment, il n'a pas pu exploiter toutes ses activités à fond, mis à part les jeux de ballon. La joie de Jérémy m'avait confortée dans l'idée que j'avais raison de le laisser vivre normalement, comme n'importe quel enfant. Et cela, même si pour lui, il était difficile d'apprendre. Il était parfois le souffre-douleur du groupe, d'autant plus qu'un certain laxisme à ce sujet semblait être de mise. En définitive, même si Jérémy s'était amusé, il ressortait très peu de points positifs de cette expérience qui n'a pas été renouvelée. L'école de musique. Depuis sa conception, Jérémy baigne dans la musique et ses goûts divergent peu des nôtres. Il a participé pendant 2 ans au jardin musical de l'école de musique. La première année, il n'a pas réussi comme les autres enfants à cause de son retard, mais cela lui a tout de même fait du bien. Il n'a pas terminé sa seconde année, plus préoccupé alors de regarder autour de lui que d'écouter le professeur, ce qui n'a pas manqué de provoquer des remous au sein du groupe. Pour Jérémy, la musique est une véritable récréation, car, en dehors de ses rééducations, il n'a guère le temps de faire autre chose. Et puis, c'est aussi une activité dépaysante. Ne sachant ni lire ni écrire, il lui était difficile de participer pleinement aux cours. Néanmoins, nous avons insisté pour qu'il continue à avoir 30 minutes de piano par semaine. Son professeur, gentil et patient, était formidable. Elle était d'ailleurs aimée de tous les enfants. Malheureusement, l'année suivante, elle ne put prolonger l'expérience par manque de temps. C'est dommage, car Jérémy avait beaucoup apprécié ses leçons et rejouait même tout seul ce qu'elle lui avait enseigné grâce à sa bonne mémoire qui compense d'autres lacunes. Jérémy reprendra quelque temps plus tard ses cours de piano à l'école de musique, mais avec un autre professeur. Il aurait aimé se mettre à la guitare, mais cela posait trop de difficultés. Le piano était plus indiqué, car ainsi, il n'avait pas à apprendre le solfège. Pour le professeur, comme pour moi, il assurait les répétitions à la maison sur un petit orgue électronique de 3 octaves. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, comme pour toute chose. Dans ce domaine aussi, Jérémy préfère être sûr de lui avant de montrer son acquis et s'entraîne donc tout seul auparavant. Néanmoins, au terme de 2 mois de leçons de piano, je dus me rendre à l'évidence. Jérémy était saturé. Au lieu d'être un loisir agréable, c'était devenu une contrainte. Ce fut pour lui un réel soulagement lorsque je lui ai appris qu'il arrêtait ses cours. Je sentis que je venais de lui enlever un poids énorme. D'ailleurs, comme par magie, soudain libéré, il s'est mis à jouer tout ce qu'il avait appris durant ces 2 mois. Il avait donc bien assimilé ce que le professeur lui avait enseigné. Pour lui, la moindre chose demande un tel investissement qu'au bout d'un certain temps, ça ne passe plus. Il faut donc être constamment à l'écoute, essayer de discerner le manque d'envie, le trop-plein d'activité et ne pas le pousser systématiquement à faire quelque chose dont il a assez, ni d'ailleurs vouloir qu'il fasse aussi bien, voire même mieux que les autres. Tout cela pour essayer de combler son handicap. Jérémy continue à jouer du piano à la maison, à son gré, et ce n'est pas plus mal. Il aime la musique et ne se lasse pas d'en écouter. Il en a besoin dans sa vie quotidienne, et vu le peu de satisfaction qu'il a, autant le laisser libre de faire ce qu'il aime. Chapitre 6. Réflexion. Une foule de souvenirs me revient à l'esprit. J'aimerais tellement retourner 36 ans en arrière pour tout effacer, pour pouvoir remodeler Jérémie afin qu'il soit autrement et m'entendre ainsi dire à sa naissance que c'est un beau bébé, qu'il est normal, que tout va bien. Tout serait si simple alors. C'en serait fini des médecins, rééducateurs, réunions de synthèse. Le cauchemar serait effacé. Tout se bouscule dans ma tête. On me dit que Jérémie fait de l'ombre à son frère et à sa sœur, qu'il faut l'écarter afin de ne pas les perturber. Mais qui sont donc ces gens? Pour qui se prennent-ils et de quoi parlent-ils? De quel droit peuvent-ils décider? Sur quels critères se basent-ils? Jérémie a toujours été intégré au courant normal de la vie, qu'elle soit scolaire ou extrascolaire. En revanche, la confrontation avec un autre trisomique reste des plus froides. Dans la mesure du possible, il prend la fuite. Ne croirait-on pas qu'il se trouve en face d'un miroir? Pour être honnête, je partage ce sentiment. Je ne suis pas pour le regroupement des trisomiques. Il est bien évident qu'il ne faut pas non plus les cacher, comme on le faisait encore il y a peu. En fait, il faut trouver un juste milieu. Ne pas avoir honte, éviter de tomber dans la paranoïa, vivre en se comportant naturellement et simplement, me semble être la meilleure attitude à adopter. Avoir un enfant handicapé n'est pas la fin du monde. Bien sûr, certains espoirs s'envolent. Toutefois, s'il aime et est aimé en retour comme n'importe quel individu, tout va bien. De tels enfants doivent être élevés au même titre que les autres. Les surprotéger n'est pas leur rendre service, car ils doivent être autonomes. Vivre auprès d'eux le plus naturellement. Trop faire attention aux autres, ou au qu'en dira-t-on, n'est pas une vie. Cela fait du mal à tout le monde, à l'enfant et à soi-même. Puisque la différence est réelle, faisons en sorte qu'elle soit positive et édifiante. Dans les faits, la rivalité entre les deux frères n'a jamais existé. Ils s'aiment et ne peuvent se passer l'un de l'autre. Ils ont 21 mois de différence et entretiennent des relations identiques à celles de tous les frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas les uns des autres à l'école qu'il y a conflit, honte ou frustration. Les enfants trisomiques sont le plus souvent en situation d'échec. Il faut donc les stimuler quotidiennement pour tout et répéter inlassablement les mêmes choses. Mais Jérémie ne semble pas y prêter attention. En fait, cela n'a pas vraiment l'air de le concerner. À ses yeux, tout cela est secondaire. Pourtant, il nous a prouvé à maintes reprises qu'il était authentiquement intelligent. Quand Jérémie allait à la maternelle et que je disais qu'il allait à telle école, invariablement, on me répondait « Il y est très bien, il ne peut pas mieux tomber. » Ce qui est vrai, dans la mesure où l'enfant n'occasionne pas de problème, et n'entrave en rien le fonctionnement et les habitudes de l'établissement. Dans le cas contraire, on ne manque pas de vous le faire remarquer en insistant bien sur le fait que l'enfant est trisomique. Et si vous avez l'audace de parlementer, il vous est alors stipulé que l'on devrait s'estimer heureux, qu'il ait été accepté et que par conséquent, il ne faudrait pas trop en demander. Lorsque l'on voit Jérémie, on me dit souvent « Il est beau, il est dégourdi !» Bien sûr qu'il l'est. Mais vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte du cheminement, de tout l'amour et de tous les encouragements que parents, frères et sœurs prodiguent incessamment à Jérémie et qui lui valent d'être ainsi. Il y a tellement de choses que personne ne soupçonne. Certes, Jérémie n'est ni caractériel ni agressif, mais en fait, ce sont dans les choses de tous les jours, dans tous ces petits détails que se fait la différence. Détails dont personne ne veut entendre parler. Faire des promesses est une chose, mais ça n'est une autre que de les concrétiser. J'ai souvent l'impression d'être enfermée entre quatre murs, le seul moyen d'en sortir étant une porte qui non seulement est étroite et également obstruée. Cela à cause de l'indifférence, de l'intolérance des gens auxquels je me heurte sans cesse, afin de défendre et de protéger Jérémie. Il s'agit de mon enfant, et je m'oppose formellement à toutes sortes d'internements. Jérémie doit être maintenu dans un cycle d'éducation normal, tant au point de vue familial que scolaire, c'est primordial. Jérémie va toujours de l'avant. L'exercice physique n'est pour lui pas un problème. Il n'est pas d'un naturel peureux, bien que cela tienne aussi sans doute de l'inconscience. N'aimant pas l'échec, il se montre très sensible à la stimulation. Il faut le pousser, le complimenter, afin qu'il persévère et obtienne des résultats positifs. Que ce soit par la force des choses ou à cause de son caractère, Jérémie aime jouer seul. Il fait des puzzles, de la peinture, du coloriage, du découpage, de la lecture. Il joue au Lego, aux voitures. Bref, un peu à tous les jeux que pratiquent les enfants de son âge. Mais pour lui, chaque progrès dans une activité est à marquer d'une pierre blanche. En général, lorsqu'il s'amuse dans sa chambre, il met toujours sa chaîne Hi-Fi en marche. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'il fait quand il pénètre dans celle-ci. Ainsi, il est dans son petit monde, au calme, même si le magnétophone fonctionne. Personne n'est là pour lui donner des ordres ou pour l'embêter. Ce sont des moments privilégiés qui n'appartiennent qu'à lui, et je veille à ce qu'il soit respecté. Ce besoin d'isolement n'est en rien propre aux enfants trisomiques et ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la compagnie. Au contraire. En fait, Jérémie réagit plus ou moins comme tout un chacun. Lorsque l'envie me vient de baisser les bras, je pense au bon moment. Et heureusement, il y en a. Il faut se dire qu'avant d'être des trisomiques, de tels enfants sont comme les autres. Et pour qu'ils aient les mêmes droits, il faut être présent à leur côté à chaque instant de leur vie. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut éviter de se montrer négatif. Au contraire, redoubler d'amour, ne pas les mettre à part sous prétexte qu'ils n'arriveront pas à faire comme tout le monde. D'ailleurs, essayer de leur faire faire les mêmes activités que les autres peut être plutôt positif, non seulement pour eux, mais également pour ceux qui les entourent. L'amour qui leur est prodigué est décisif dans leur épanouissement et à leur manière, ils nous le rendent bien. Pour terminer le chapitre intitulé « École », Denise Raymond, sa maman, a écrit en parlant de Jérémie ceci. En classe, tout se passait bien, de même qu'à la cantine. Il se tenait bien à table, et ce dans tous les sens du terme. À la récréation, mis à part quelques anicroches d'usage en début d'année, il était désormais bien intégré. Il était tout simplement heureux d'être à l'école. C'est là un bon point pour son autonomie future. Quel plaisir d'entendre ces paroles. Mais qu'en est-il des activités extrascolaires? C'est ce que cette fin de chapitre nous a montré. Piscine, plaisir de l'eau, musique, ce sont des passe-temps appréciés par Jérémy. Dans le prochain épisode, Denise Raymond, après nous avoir partagé son expérience de vie, nous fera aussi part de quelques réflexions qui lui ont été suggérées tout au long de ce cheminement. N'oubliez pas d'écouter la suite de ces émissions. Je lis pour vous sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et en DAB+, en direct ou à travers le podcast sur notre site. Pensez aussi à écouter la brève de Je lis pour vous. À bientôt, chers auditeurs.